Bonjour à tous et bienvenue pour la reprise des activités de la Société de philosophie de Bordeaux. Alors, aujourd'hui, nous recevons Valérie Laurent, que pour notre part, nous connaissons bien, puisqu'il enseigne à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il est spécialiste des stoïciens, de la philosophie grecque et hellénistique, des stoïciens et du stoïcisme non seulement en grec, mais aussi romain. Et l'auteur dont il va nous parler, Musonius Rufus, est un stoïcien du stoïcisme romain. Alors, il a publié un livre sur la politique des stoïciens en 2005 au PUF, et puis un vocabulaire des stoïciens et une traduction de Sénèque, La vie heureuse, chez Ellipse. Et il va donc nous entraîner vers la question non seulement éthique, mais aussi vers la question politique du mariage.
Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais remercier, vous remercier tous d'être venus, les collègues, les amis, d'autres, les étudiants, quelques-uns. Et puis, je voudrais remercier beaucoup Kim de m'avoir invité pour cette première séance de la Société de philo, dont je suis un membre, comment dirais-je, pas très très fidèle, mais je viens. En tous les cas, je paie ma cotisation. Société de philo à laquelle je vous invite à adhérer. Parce que c'est quelque chose d'important qui est dans la cité, une association qui puisse mettre la philosophie dans la cité, lui donner droit de cité. Je crois que c'est très important. Alors évidemment, c'est un véritable honneur d'abord. C'est la première fois que je parle à la Société de philo. C'est un vrai honneur, un vrai plaisir de venir présenter mon livre donc aujourd'hui. Le problème, c'est que je n'ai pas tout à fait présenté mon livre. Je vais parler de sexualité et mariage, comme je l'avais indiqué. Ça a rapport avec mon livre, j'en parlerai bien sûr. Mais je ne vais pas présenter mon livre. Je vais quand même en dire quelques mots, c'est important. Alors, c'est un honneur de venir le présenter, mais en même temps, c'est une réelle difficulté. Pour des raisons d'abord historiques. Et puis ensuite, pour des raisons de contenu. D'abord, des raisons historiques, parce que c'est un livre qui a une histoire. C'est un livre qui a une histoire qui est longue, très longue, peut-être trop longue, et une histoire passablement complexe. Au départ, c'était une thèse que j'avais commencée en 1997. Donc, ce n'est pas d'hier, que j'ai soutenue en 2002, et qui a donc mis 12 ans à devenir un livre. Alors cette thèse, je la prenais, je la reprenais de temps à autre, quand les responsabilités, les cours, les recherches en cours, m'en donnaient un peu le temps. Puis après, je laissais le manuscrit, parfois de longs mois, et le tout sur fond d'une vie qui avançait, et qui, comme toute vie, se transformait aussi, avec ses problèmes, ses joies, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vie et recherche, mais vous vous en doutez, vie et recherche, eh bien, ne sont pas des domaines hermétiques, bien loin de là, mais il y a de l'un à l'autre des porosités qui se révèlent, et parfois aux endroits où on s'y attendrait le moins. Bref. L'auteur non plus n'était plus le même, puisque je dois l'avouer, en 12 ans, j'ai un peu vieilli. Et puis, voilà, il y a les expériences diverses. Donc l'auteur n'était plus le même, mais le contenu, lui, restait identique. Parce qu'on ne transforme pas la pensée d'un auteur sur lequel on a travaillé, avec quand même quelques aménagements au gré de la bibliographie, quand même, une bibliographie à peu près à jour, mais aussi au gré des péripéties de la vie, qui donnent toujours quand même à penser à repenser les textes. La thèse constituait ainsi, d'une certaine façon, une sorte de fil rouge, alors même que mes intérêts scientifiques se déplaçaient. Et ils se sont déplacés de la question Musonius Rufus, à la question de la paresia, du franc-parler, de la paresia et de la conflictualisation des idéaux. Et j'en suis là à présent. Donc je m'intéressais à d'autres lieux de la philosophie antique. Mais c'était un fil rouge. J'ai toujours gardé un petit œil sur mon Musonius, non seulement sur les stoïciens, ça toujours, mais sur Musonius, et aussi sur les thèmes que j'abordais dans cet ouvrage. Alors parlons-en. Ces thèmes sont nombreux. Et au centre, il y a ce que les stoïciens appellent l'oikeiosis, c'est-à-dire un mouvement d'appropriation à soi-même. L'oikeiosis. D'abord, l'oikeiosis, cela apparaît comme quelque chose de très humble, instinctif, commun à tous les vivants, même aux plantes. Je prends ce qui est utile à ma conservation, je rejette ce qui est nuisible. C'est une simplicité adamantine. Je prends ce qui est utile à ma conservation, je rejette ce qui est nuisible, et pour ainsi dire, j'intègre ce que je prends. J'intègre en moi de l'autre pour me constituer moi-même. Cette pulsion, ormé en grec, qu'on peut très bien traduire par pulsion, cette pulsion qui oriente toutes les pulsions, hein, les stoïciens disent que l'oikeiosis, c'est une pulsion qui est avant toutes les pulsions, qui dirige, on pourrait dire, l'appareil pulsionnel. Cette pulsion qui oriente toutes les pulsions conduit finalement à s'adapter à soi-même, à sa nature, à la nature, à cet individu que je suis et qui se transforme. Et il faut bien comprendre aussi que l'oikeiosis est dynamique. Elle est dynamique. Il y a une très belle lettre de Sénèque, c'est la lettre 121, où il montre cette dynamique de l'oikeiosis qui fait que je m'adapte toujours à l'individu que je deviens. Toujours. Ce qui laisse la place à un progrès de l'individu et de l'oikeiosis. Nous sommes toujours donc dans un mouvement d'adaptation à soi-même, à une constitution, le corps, qui change, mais aussi à une vie psychique qui, par ce mouvement même, se modifie, s'enrichit, ce que Victor Goldschmidt, un grand spécialiste du stoïcisme, appelle dans les stoïciens et l'idée de temps, le système stoïcien et l'idée de temps, qui est, à mon avis, là, c'est pas trop de la pub pour moi, mais à mon avis, le plus grand livre qui ait été écrit sur le stoïcisme jusqu'à présent. Victor Goldschmidt appelle ça le mouvement du même au même. On est dans un mouvement du même au même. Excusez-moi. Mouvement d'intégration, donc, qui peut aussi, pour le vivant particulier, donc, qu'est l'homme, être le mouvement d'intégration, donc, avec toutes les modifications qui peuvent être attachées à un tel mouvement, d'intégration, donc, d'une éducation, d'un enseignement, d'une recherche, d'une philosophie. C'est le cas chez Musonius. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans la première partie de l'ouvrage. Comment un homme, un insensé, parce que pour les stoïciens, nous sommes tous des insensés à part le sage, et les sages, comme j'ai dit aux étudiants, il n'y en a pas gavé. Il y en a un tous les 500 ans, à peu près, nous dit Sénèque. Donc comment un homme, un insensé, c'est-à-dire nous tous, pris dans un amas de contradictions, comme nous tous, entravé dans les passions les plus diverses, comme nous tous, c'est-à-dire démultipliant lui-même les obstacles à la libre accession à lui-même, comme nous tous, dans ce que pourrait appeler Sénèque un « vindicate tibi », « revendique-toi toi-même », c'est ce que veut la nature, « vindicate tibi », « revendique-toi toi-même », comment donc cet insensé accède, via la philosophie et son enseignement, à un désentravement ? Il n'intègre sans doute pas des contenus ou des compétences, nous dit Musonius, et les autres stoïciens également, mais de quoi changer sa manière d'être, de quoi élargir ses horizons, en concentrant paradoxalement son intérêt sur lui-même. En intégrant ce qu'on appelle les dogmes fondamentaux, c'est-à-dire des petits principes, en intégrant les dogmes fondamentaux du stoïcisme, et en s'y exerçant, il se donne les moyens de se doter, je le dirais comme cela aujourd'hui, je ne le disais pas à l'époque, il se donne les moyens de se doter d'idéaux constituants parce qu'il est fait sien, mais aussi et peut-être surtout d'outils pour une critique de ces idéaux. L'individu stoïcien est donc une entité dynamique, toujours en tension, le grec tonos, dont Musonius parle beaucoup. Tonos, tension physique, mais aussi psychique. Physique, il y a un tonos de l'individu, et psychique, parce qu'il y a une tension appropriée à l'âme. Ce mouvement d'oikeiosis, j'ai eu l'occasion de le montrer aussi ailleurs dans la politique stoïcienne, est un mouvement qui adapte donc l'individu à lui-même, mais en même temps, toujours à l'autre. C'était là la deuxième partie de l'ouvrage. Il faut alors penser l'oikeiosis comme un mouvement d'adaptation à soi-même dans le temps. Si l'on reprend un modèle très classique de l'oikeiosis, celui des cercles concentriques. On pourrait dire, comme Hiéroclès le présentera un peu après Musonius, peut-être une cinquantaine d'années après, mais le modèle des cercles est lui-même un modèle très prégnant dans la pensée stoïcienne. On pourrait donc dire que l'individu, sa dianoïa, sa faculté de penser, est au centre de plusieurs cercles. Le premier, sa constitution, son corps, tout ce dont il a besoin, c'est l'un des aspects de l'oikeiosis comme adaptation à soi-même. Le second, c'est le cercle des parents, de l'époux ou l'épouse, des enfants. Puis vient le cercle des grands-parents, oncles, tantes, etc. Puis le cercle des voisins, le cercle des habitants du même quartier, enfin on dit d'em, les habitants du même quartier, ensuite le cercle de la cité, puis le cercle de la région, et puis le cercle du monde, c'est-à-dire en fait le cercle du Dieu. Et ces cercles, c'est en fait les relations qu'il y a du centre au cercle. Relation de parenté, relation de mariage, on va en parler bientôt, relation de grand-parenté, de concitoyenneté, etc., etc. La fin du cercle, c'est l'amitié. L'amitié, c'est le cercle du Dieu. Tout un mouvement complexe, donc, qui est à la fois centrifuge, du centre vers la périphérie, dans une sorte d'élargissement de soi, d'appropriation pour soi, oikeiosis, l'appropriation. Mouvement donc centrifuge, mais aussi et surtout, je dirais, ce qu'on voit avec Musonius, surtout centripète, de la périphérie vers le centre. Chaque cercle extérieur doit entrer dans le cercle qui le précède. Et cela conduit à un élargissement de soi par intégration. Donc un élargissement de soi qui est en même temps concentration en soi, des voisins, de la famille, du monde. Et comment on y arrive ? Eh bien, par un effort de la raison, un effort volontaire. Un effort où on va appeler chaque gens du cercle le plus extérieur par les noms de ceux du cercle immédiatement intérieur. Enfin bon, c'est tout un système. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que dans ma seconde partie, j'ai un petit peu focalisé sur ce premier cercle, juste après le deuxième en fait. Il y a la dianoïa, le corps et tout ce qui lui sert, la constitution, puis le cercle est parents, épouses, époux, enfants. Et dans ce cercle, ce qui m'a étonné, c'est la position de l'épouse. Alors que les autres cercles, il y a les parents, les enfants, après presser les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. etc. Qu'est-ce que foutait l'épouse ici ? Me suis-je demandé. Dans toutes ces relations de sang, qu'est-ce que faisait l'épouse ici ? C'était une relation d'élection. Et sa position, tout à fait intéressante, les parents, l'épouse, les enfants, sa position m'a amené à faire l'hypothèse que le mariage est une étape absolument fondamentale d'un processus historique. Voyons les cercles comme des cônes dans le temps. On a donc la dianoïa, puis ensuite on a l'appropriation à soi-même, et puis l'appropriation aux parents. Les parents, c'est les enfants, c'est des parties des parents pour les stoïciens, des parties, mais destinées à devenir indépendantes. C'est un petit peu compliqué. Et puis voilà, cette première relation d'élection. Et cette première relation d'élection, pour Musonius, elle change tout. Elle change tout. Elle change même les relations avec les parents. Et je dirais surtout les relations avec les parents. Donc, première relation d'élection qui transforme toutes les autres relations. Relations par le sang, qui sont réévaluées sur le modèle de l'élection. Mais aussi les relations avec les concitoyens, parce que avec... La relation du mariage s'impose, c'est ce que les stoïciens appellent la kédémonia. La kédémonia, c'est la sollicitude. Alors je ne sais pas si on pourrait faire de la kédémonia, la sollicitude, quelque chose comme le care, a priori, ça demanderait quand même de sérieux aménagements, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est d'une importance capitale, c'est la kédémonia. Et donc, si vous voulez, avec Musonius s'impose une espèce de réévaluation du mariage. D'abord, parce que l'époux ou l'épouse, je l'ai dit, est choisi. est l'objet d'un choix affectif tout autant que rationnel, parce que vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'affectif et le rationnel chez les stoïciens. Excusez-moi. C'est un choix, donc, je l'ai dit, qui change tout, qui transforme tout. La présence de l'époux ou l'épouse dans le premier cercle, où, a priori, on n'attendrait pas cette relation d'élection, indique tout ce que le mariage comporte de dégagement par rapport à ces relations. C'est un très beau traité de Musonius sur le père, c'est le traité 17. Doit-on obéir en tout à son père ? Qui est assez génial. Cette relation change tout, transforme tout. Cette présence de l'époux, excusez-moi, ou de l'épouse dans le premier cercle, indique tout ce que le mariage, donc je l'ai dit, comporte de dégagement par rapport à ses relations, à la famille, aux parents. Et le mariage avec Musonius s'impose comme modèle et matrice de toutes les relations. Modèle et matrice. C'est-à-dire que c'est là-dedans, dans cette première communauté, dit Musonius, c'est dans cette première communauté que se fondent les relations qui auront cours dans la cité. C'est la première pierre de la cité, dit Musonius. Qui détruit le mariage, dit-il, détruit la cité, détruit la race humaine tout entière. Parce qu'il n'est pas tout à fait léger parfois, Musonius. Qui détruit le mariage, détruit la cité, et détruit la cité, le genre humain tout entier. Le mariage, donc, j'insiste, est le nom d'une relation, attention. Pour Musonius, c'est bien le nom d'une relation, ce n'est pas d'abord l'institution. Le mariage, c'est une relation, c'est un type spécifique de relation. Il y a l'amitié, la philia, il y a la philostorgia, la relation des parents aux enfants et des enfants aux parents, et puis il y a gamos, le mariage. C'est une autre relation, tout à fait autre, et qui s'impose. Et cette première relation, je l'ai dit, permet d'accéder aux autres relations, mais également d'abord et surtout à la relation à soi-même. On reste bien dans l'oikeiosis, c'est un moment de l'oikeiosis, donc c'est toujours en même temps une relation à soi-même. Et l'oikeiosis a deux faces, une qui est une oikeiosis à soi-même, personnelle, c'est je prends, je rejette, et puis finalement je m'attache à l'harmonie de ce mouvement. Et puis l'autre face, ça c'était comme si c'était la face pile d'une pièce, et puis vous avez face, c'est l'oikeiosis aux autres, c'est-à-dire en même temps que je m'adapte à moi-même, je m'adapte aux autres, et en même temps que je m'adapte aux autres, que je m'approprie aux autres, je m'approprie à moi-même. Donc ça permet d'accéder aux autres relations dans une relation de sollicitude dont elle fournit le modèle, je l'ai dit. Elle mène donc ainsi, d'abord à la cité, c'est la première phase de la cité, la première phase logique, parce qu'on n'est pas dans une histoire de la cité, on n'est pas dans une histoire de la formation de la cité, mais c'est la première pierre logique de la cité, qui est une base constitutive fondamentale pour Musonius, et elle mène aussi, chez Musonius, à la cité universelle. Je ne sais pas, la relation d'élection, j'insiste deux secondes, la relation d'élection, c'est une importance fondamentale pour Musonius, absolument fondamentale. C'est ce qui permet de distinguer, par exemple, d'autres penseurs du mariage, et notamment l'empereur Auguste, qui va faire des lois sur le mariage, et dont Dion Cassius nous donne quelques témoignages. À lire les textes très rapidement, on pourrait se dire, tiens, Musonius, c'est un penseur du mariage dans une perspective très, très, très romaine, très romanisante, romaine pour la cité, un penseur nationaliste, un penseur... Pas du tout. On est dans une perspective où, effectivement, la relation d'élection est d'une importance capitale et qui nous mène vers quelque chose comme la cité universelle. Cette question, j'ai traitée dans la troisième partie de l'ouvrage, donc, qui est plus politique. Et je mets un terme à cette brève présentation générale. Pourquoi ? Parce que la suite de mon propos va consister dans une réflexion centrée sur le mariage. Je ne m'attendais pas, il y a quelques années, à revenir sur cette question. Mais c'est bien, c'est intéressant. Donc, consistera dans une réflexion centrée sur le mariage, et je voudrais y reprendre dans cette réflexion un problème que je n'ai pas explicitement traité comme tel dans mon livre, même si il n'est pas absent, ce problème. Je voudrais avoir dans une vision un peu élargie, élargie à d'autres auteurs, dans cette époque charnière qui est grosso modo la fin de la République, le début du Principat, ou le premier siècle, on va dire, du Principat, dans cette période charnière où un auteur qui s'appelle Susan Dixon, par exemple, a vu, avec à mon avis beaucoup de raisons, s'opérer une sorte de transformation des idéaux, où le mariage est devenu, le mariage sentimental, est devenu un idéal. Hein. Auparavant, le mariage était une sorte de fabrique des enfants, on va dire, très très rapidement, mais c'était ça. La relation de l'époux à l'épouse, c'était une relation très économique, au sens le plus étymologique du terme, hein, l'administration de la maison. Et puis les enfants légitimes, assurer la lignée, assurer l'administration de la maison. Les mariages étaient très largement arrangés. Je me tourne vers les spécialistes. Voilà. Avec ce début d'idéalisation du mariage, d'idéalisation de la relation entre époux, qu'on situe à peu près à la fin de la République, avec quelques belles lettres de Cicéron à son épouse, où alors là l'idéalisation marche à fond, et puis après des gens comme Musonius, Plutarque, je vais en parler. Voilà, il y a une pensée du mariage avant en tous les cas l'Église chrétienne. Il y a déjà une idéalisation du mariage, il y a déjà une pensée du mariage, et si ça peut servir de pub pour Musonius, il faut savoir que par exemple quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, lorsqu'il parle du mariage, utilise mot pour mot Musonius Rufus. On a des pans entiers de Musonius qui sont dans Clément d'Alexandrie. Donc, idéalisation du mariage qui précède une pensée plus théologique, plus confessionnelle du mariage. Donc, dans cette période, ce qui va m'intéresser, c'est que c'est une période charnière, et c'est une période où la question de la sexualité dans le mariage est une question, sinon débattue, au moins qui est présente dans la littérature. Et plus exactement, ce qui m'intéresse encore, c'est que s'il y a bien un lieu où la sexualité, où la pensée de la sexualité est totalement bannie, c'est le mariage. Le plaisir conjugal, s'il n'est pas complètement ignoré parce que de toute façon choquant ou tabou, le plaisir conjugal, donc les aphrodisias dans les liens du mariage, sont neutralisés parce qu'ils ne sont l'expression que d'une nécessité qui elle-même répond à une exigence réputée plus haute, à savoir la procréation des enfants. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça change avec Musonius. Parce qu'au départ, enfin vous le verrez après, mais au départ on pourrait penser que la pensée du mariage par Musonius est un petit peu, enfin pas très marrante, pas très rigolote, pas très sympa. Genre, les aphrodisias, on réserve ça au cadre du mariage et à la procréation des enfants. Voilà. On ne peut ressentir du plaisir dans le mariage que pour la procréation des enfants et, je l'ai dit, dans les cadres du mariage. Alors, a priori, comme ça, ça semble un rien old-fashioned et un tout petit peu austère. En fait, j'y reviendrai tout à l'heure, dans l'époque, c'était tout à fait intéressant. On mettait, comment dire, Musonius intégrait la notion de plaisir dans le mariage. Et ça, c'était assez nouveau. Excusez-moi. Le mariage apparaît ainsi dans les autres textes dont je vais parler tout à l'heure comme le lieu où les aphrodisias, donc les plaisirs sexuels, sont maîtrisés alors même qu'ils sont voulus par la nature, maîtrisés à tel point qu'ils disparaissent du discours, faisant en somme l'objet d'une triple censure. Une censure dans le discours philosophique, on n'en parle pas ou le moins possible, mais dans le discours de manière générale. Une censure dans les mœurs, s'il faut bien convenir de leur nécessité, il faut veiller à ne pas montrer ses plaisirs. Enfin, une censure des plaisirs eux-mêmes. Le mieux, quand on fait l'œuvre d'Aphrodite, au sein du mariage, c'est qu'on ne les ressente pas comme plaisir. On ne prend donc pas, dans beaucoup de textes, beaucoup de plaisir avec l'épouse, on fait des enfants. Et limiter le plaisir sexuel au mariage, c'est un peu comme s'abstenir du plaisir sexuel, ce qui peut être valorisé au titre d'une grande tempérance, mais cela sous-entend alors qu'on ne pourrait prendre du plaisir que dans les relations extra-conjugales, le plus souvent quant à elles dévalorisées ou bien vues comme un mal nécessaire pour l'homme, jamais pour la femme. Donc, comme un mal nécessaire, précisément à cause de la tyrannique nécessité du désir sexuel. L'absence de référence au plaisir conjugal connaît cependant deux notables exceptions, je l'ai dit, Musonius d'abord et Plutarque. Musonius fait une mention très claire du plaisir entre les époux, et pour Plutarque, les aphrodisias sont très valorisées, dès lors, effectivement, qu'on les consomme dans les liens du mariage. Mon propos consiste à réfléchir sur le renversement de l'évaluation de la conjonction entre aphrodisia, les plaisirs sexuels, et gamos. Renversement de l'évaluation de cette conjonction dans la réflexion philosophique à Rome, chez les héritiers de trois écoles hellénistiques, l'épicurisme, l'académie et le stoïcisme. Et puis, évidemment, on va dire le médioplatonisme avec Plutarque. Et l'ambition de mon propos se borne à dresser une sorte d'état des lieux. Or, pour ce faire, il faut s'arrêter sur trois notions très difficiles à articuler. Pour penser le rapport entre aphrodisia et gamos, voluptas et matrimonium en latin, il convient de s'interroger sur les liens d'une part entre eros, ou amor en latin, l'amour, et aphrodisia, et d'autre part entre eros et gamos. Or, ces deux couples de notions ne vont pas de soi, loin s'en faut. D'une part, il faut tenir compte de la profonde ambivalence, justement soulignée par Martha Nussbaum, par exemple, de la conception grecque de l'éros, que l'on retrouve, mais plus péjorativement encore marquée, dans le latin amor. Ambivalence où sont entremêlés désir sexuel pour l'éroménos, l'aimé, et désir de son éducation, l'érastès ayant la fonction de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte d'idéal du moi, qui ne peut se faire sans la sublimation, l'idéalisation plus ou moins réussie du premier désir, et en ce sens, les œuvres d'Eros et celles d'Aphrodite ne gagnent rien à la confusion, c'est l'Eros pédagogique. D'autre part, il faut faire dans la pensée grecque avec la relative dévalorisation de la relation conjugale par rapport à la relation homosexuelle. Au mariage reviennent les œuvres d'Aphrodite, sans passion, et somme toute, c'est la relation homosexuelle qui est la plus plaisante, on va dire. Somme toute, Aphrodite est perdant dans tous les cas de figure. Deux exemples sont emblématiques de l'exclusion du plaisir dans les liens du mariage, deux exemples qui entretiennent un lien théorique, une pensée du plaisir, mais un lien théorique assez lâche cependant, puisque le plaisir de l'amour chez l'un, assumé comme une sorte de maladie qui fait du bien, se trouve rejeté par l'autre, alors même qu'il revendique une philosophie du plaisir sous le patronage de Vénus. Il s'agit, dans un premier temps, d'Ovide, qui est un poète, avant d'être un philosophe, et de Lucrèce, qui est un philosophe, mais bien poète aussi. La pensée du premier, Ovide, est particulièrement délicate, en ce qu'elle reconnaît dans le mariage une double et contradictoire censure. D'une part, le mariage est réduit à l'institution. Pas une relation, c'est l'institution, les cadres du mariage. Le mariage, dans sa pensée, est réduit à l'institution, à savoir le mariage, selon les lois d'Auguste, qui joue le rôle d'une censure morale. Le mariage est censure du plaisir. D'autre part, la nature même du mariage porte à la transgression, dit Ovide, parce que précisément, les plaisirs y sont permis et pour cela moindres. Le mariage, en ce sens, est une entrave au plaisir de la censure, extrêmement important pour notre auteur, parce que, en tant que relation fermée, le mariage ne laisse de place qu'au plaisir de la transgression. On trouve cet état paradoxal du mariage dans un passage des Amours que je vous lis. Si pour toi, il n'est pas besoin que la belle soit surveillée, insensée, du moins pour moi, fais-le. Surveille-la pour que moi, je n'en désire davantage. Ce qui est permis est déplaisant. Ce qui n'est pas permis, voilà qui brûle plus vivement. C'est l'amant qui parle au mari. Il est de faire celui qui aime ce qu'un autre le laisse aimer. Nous devons espérer autant que nous devons craindre, nous autres amants, aussi que de temps en temps, un refus laisse une place pour le désir. Enferme ta belle, surveille-la bien pour que ce soit plus dur de l'avoir. Le passage est pour ainsi dire structuré par le paradoxe. Pour le mari, la femme n'a pas à être surveillée. Or, l'absence de surveillance, d'un obstacle qui permette d'espérer et de craindre, n'apporte précisément à l'amant véritable aucun plaisir. Ovid se livre là à l'habile détournement d'un précepte d'allure morale, « Surveille ta belle » pour lui éviter la honte de l'adultère. « Surveille-la » parce que les lois d'Auguste, en particulier la lex Iulia de adulteris, punissent le mari trop indulgent. Mais ce précepte d'allure morale a pour résultat pratique d'exclure l'amour du mariage, faute de piment, de la brûlure du désir, de l'interdit. Les plaisirs non interdits, faciles à se procurer, les plaisirs naturels et nécessaires épicuriens, pour tout dire, ne font pas plaisir. Et surtout, ils n'ont rien à voir avec la passion amoureuse. Je cite encore Ovid, « Ce qui est permis est facile, quiconque le désire, qu'il aille cueillir les feuilles des arbres et boire de l'eau dans un grand fleuve. » Ce qui vaut cette généralisation d'Ovid, cette fois pestant contre le mari jaloux qui fait surveiller sa femme, en Amour 3-4, où il dit « Nous nous portons toujours vers ce qui nous est défendu et nous désirons ce qu'on nous refuse. » Ainsi, vaut-il mieux ne pas surveiller une femme dont seule la vertu de toute façon demeure le gardien effectif ? Exemple, Pénélope. Pénélope est restée pure, malgré le nombre de ses prétendants. Mais une Pénélope qui apparaît beaucoup plus sage que celle qui, au moyen d'un arc, teste la vigueur des dix prétendants en 1-8. Pénélope, cela dit, offre le rare exemple d'une femme vertueuse dans Ovide, alors même que d'aucune, même surveillée, trompe leur mari en réalité ou en fantasme, et c'est alors dans leur âme qu'elles sont adultères. Je cite, toujours Ovide, « C'est la seule et chaste qui le demeure quand elle n'a rien à craindre en ne l'étant pas. Celle qui ne fait pas l'amour parce qu'elle ne le peut pas, c'est comme si elle le faisait. Même si tu préserves soigneusement le corps, l'âme est adultère. » Ce qui est dès lors en jeu, c'est la pertinence même d'une contrainte extérieure. Le mariage est la contrainte d'une loi qui ne peut guère changer les cœurs, même si elle contraint les corps. Et encore, ne les contraint-elle pas véritablement ? Cette remarque semble invalider presque totalement ce conseil donné aux femmes mariées dans « L'art d'aimer » cette fois. Art d'aimer 3, 613-614. Ovid dit que la femme mariée craigne son mari, qu'on la surveille constamment. C'est là ce qu'il convient, c'est là ce que les lois, le chef et la pudeur ordonnent. Est-ce là une pure précaution dans l'art d'aimer, une pure précaution oratoire par souci de complaire à l'autorité d'Auguste et aux mores sévères que celui-ci prétend restaurer ? Peut-être pas, et on peut penser qu'il en est de l'amant fou Ovide, comme de la prostituée pudibonde qui, malgré les impératifs du métier, conserve en son cœur une morale et se plaît à la reconnaître en ceux qui ont eu plus de chance d'elle. Ce qu'on fait ne prétend pas à l'universalité, et si l'amour doit avoir une place, le mariage, sans doute noble même sans amour, doit avoir la sienne. Il y a en somme une morale, et peut-être même est-ce cette morale qui permet d'inventer les diverses manières de lui échapper. Ainsi Ovide conseille-t-il aux femmes de suivre ses leçons, de profiter de son art d'aimer tant qu'il est encore temps. Je cite 3, 58-63. « Tandis que Vénus m'inspire, cherchez ici des leçons aux femmes. » Je parle des femmes que la pudeur, les lois et leurs conditions autorisent à en puiser ici. Dès à présent, songez à la vieillesse qui viendra. Ainsi, vous ne laisserez passer aucun moment sans en profiter. Pendant que vous le pouvez, que vous êtes encore au printemps de la vie, amusez-vous. Les années s'en vont comme une eau qui s'écoule. N'est-ce pas là une autre façon de chanter le carpe diem ? Profite de ce qu'il te reste de liberté avant que le mariage et la vieillesse ne transforment le plaisir en un lointain souvenir. Le lien opéré par Ovide entre les femmes mariées et les vieilles femmes n'a rien ici d'anodin. Le mariage est comme une accélération du temps et transforme pour ainsi dire la substance de la femme. La femme mariée se voit exclue d'un temps du plaisir, d'une histoire du plaisir, En somme, on pourrait dire que la femme mariée est une jeune vieille. Vieille avant d'être vieille parce que l'institution la vieillit avant l'âge. Telle est la force de l'institution qu'elle fait que la femme, sous le droit de son mari, de la pudeur et des lois, la femme est un corps triplement censuré et une âme qui doit elle-même se censurer pour assumer la fonction du mariage comme fonction sociale de reproduction. Le mariage apparaît dès lors, dans ce contexte, comme une institution de grands, d'adultes, qui ne peuvent plus aimer, une institution de vieux, alors même qu'il doit cependant sauvegarder, outre les corps, les bonnes mœurs nécessaires à la sauvegarde de l'État. Et pourtant, celles-ci, dit Ovide, n'ont pas d'autre fondement, si on y réfléchit, que l'amour lui-même. La censure des lois devient alors ambivalente. Elle est légitime dans le sens où elle s'inscrit dans une logique du sentiment amoureux par nature exclusif. Elle est illégitime parce que précisément, elle contraint un mouvement intrinsèque à l'amour. Elle plaque, pour ainsi dire, la fidélité là où elle devrait se laisser construire par le sentiment au risque d'être falsifiée par ce même sentiment. Car si l'amour est une volage par nature, l'amant n'aspire qu'à la fidélité. Et l'invention de la poésie chez Ovide arrive finalement, sans doute plus sûrement, à ce qu'ordonnent de l'extérieur les lois, parce qu'elle seule comprend la poésie de l'intérieur, toutes les facettes de l'amour et sait les articuler. L'amant n'a d'autres prières que celle-ci, je cite, le texte est un peu long, je vous prie de m'en excuser, c'est dans Les Amours 1-3, « Juste est ma prière. La femme dont je suis depuis peu la conquête doit m'aimer ou faire que je l'aime toujours. » Mais j'ai trop demandé, qu'elle se laisse simplement aimer, et la déesse de Cythère aura exaucé toutes mes prières. Accepte un amant qui soit ton esclave pendant de longues années, un amant qui sache aimer d'un cœur pur et fidèle. J'ai pour allié Phébus, ses 9 compagnes, et le dieu qui inventa la vigne, et l'amour aussi qui me donne à toi, et une fidélité à nulle autre seconde, c'est l'amant qui parle, hein, et une fidélité à nulle autre seconde, une conduite irréprochable et une pudeur qui empourpre ma joue. Non, je n'aime pas sans femme, je ne suis pas un voltigeur d'amour. C'est toi, tu peux m'en croire, qui sera toujours l'objet de mes soins. C'est auprès de toi que je souhaite le bonheur de vivre les années que m'assure le fil des parcs, toi dont je veux que soit pleurée ma mort. Est-ce que c'est là, avec tout ce qu'on a lu précédemment d'Ovide, des promesses d'amoureux pris d'un délire? Sans doute. Mais c'est aussi cette folie amoureuse qui engendre la poésie. Une sorte d'immortalité, celle-là même que recherche tout engendrement, et montre que la pulsion amoureuse est non seulement issue du désir violent des corps, mais également ce qui permet son dépassement, même s'il n'est que promesse. Il faut, je crois, prendre au sérieux ces lignes d'Ovide, sans les rejeter comme une sorte de cynisme amoureux et calculateur. Cela parce que la passion amoureuse est, dans l'instant, en son cœur même, c'est Eros, fidèle et poétique. Elle déploie une autre temporalité qui transfigure la relation rêvée, temporalité parallèle, promesse et espoir d'un avenir à deux, que cependant, le temps du désir et la multiplicité de ses objets rend incertain. La passion porte sur un objet unique, objet cristallisé de tous les soucis, et amène à dépasser précisément l'instant présent dans un futur qu'elle doit et ne peut qu'imaginer, à défaut peut-être de l'inventer, à deux et au risque de l'autre et de soi-même. Si l'amoureux alors promet sa fidélité, il n'ose cependant l'attendre de sa bien-aimée. C'est dans l'engagement du sentiment que se construit la réciproque, jamais assurée. On chercherait en vain une telle vision du plaisir chez Lucrèce. Et pourtant, les deux auteurs ont des présupposés communs. D'une part que le plaisir est à rechercher, mais d'autre part qu'il ne faut pas le rechercher dans le mariage. Mais cette communauté de vues a pour contrepartie une très large différence. Ovide place tout le plaisir et tout plaisir valable dans l'amour. Lucrèce refuse à tout amour le statut de plaisir. Toujours dans mon affaire de bricolage entre Eros, Gamos et Aphrodisia, hein, comment ça marche l'amour, le plaisir et le mariage. Lucrèce donc refuse à tout amour le statut de plaisir. Pour Lucrèce, les simagrées d'Ovide sur le seuil de sa maîtresse ne seraient que le résultat de la pire faute de jugement qui soit, précisément celle qui consiste en ce qu'on appellera ensuite la cristallisation sur l'objet de l'amour. Le désir sexuel, s'il est sans doute naturel mais non nécessaire, dit Lucrèce, doit être alors distingué de la passion amoureuse et assouvi avant qu'il ne devienne trop violent. Je cite Lucrèce, c'est dans le De Natura Rerum, au chant 4, fin du chant 4, 1063-1067. Mais sans cesse, il convient de fuir les simulacres et de chasser de soi les pâtures d'amour, de tourner son esprit vers ailleurs, de jeter en n'importe quel corps l'humeur accumulée, on voit ce que c'est, au lieu de la garder à jamais consacrée à un amour unique et de se réserver à préserver l'amour, une douleur certaine. L'amour, ça fait mal. Autant ne pas y goûter. Et si vraiment on a envie d'assouvir ses désirs, on va jeter sa semence là où on peut, là où on veut. Mais surtout, ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Si on, hein, voilà. Ou alors on peut aussi, disait Épicure, faire une petite promenade qui va nous enlever aussi les simulacres qu'on a en trop. Les atomes, pardon, qu'on a en trop. C'est un trop plein d'atomes. Alors, soit on va piquer un 100 mètres, soit on... Bref. Et le plaisir lui-même, le plaisir sexuel lui-même, dans une sorte de spirale, amène à cette errance du désir, puisque dans la fougue et la violence des ébats amoureux, vient toujours un moment de douce et trompeuse trêve. Je cite Lucrèce encore, 4084-4090. « Mais légère Vénus, à l'instant de l'amour, vient briser la peine, tandis que la volupté, mêlant ses caresses, réfrène les morsures. De là vient l'espoir que l'origine de cette ardeur, le corps qui l'alluma, puisse en éteindre le brasier. Mais la nature proteste qu'il advient le contraire. Et c'est bien le seul cas où plus nous possédons, plus notre cœur brûle d'un funeste désir. » Surtout, ne pas aimer. Quelle horreur. Pour... Voilà. Cette trêve est trompeuse, donc, puisqu'elle est ce qui permet au fantasme de se constituer ou de se reconstituer. La trêve signifie paradoxalement l'absence de limite assignable au plaisir sexuel. Plus nous en avons, plus nous en désirons, et sans limite, le plaisir devient irrémédiablement une douleur. On retrouve là ce que dit Métrodore à Pitoclès dans la Maxime Vaticane 51 attribuée à Épicure. Je vous la cite. Tu m'apprends que le mouvement de ta chair est plus généreux pour la relation amoureuse. C'est bien dit. Pour ce qui te concerne, si tu ne renverses pas les lois, si tu n'ébranles pas les coutumes en place, si tu n'affliges pas l'un de tes proches, si tu n'épuises pas ta chair, si tu ne sacrifies pas les nécessités vitales, exerce ton penchant à ta guise. Il est toutefois impossible de ne pas se trouver soumis à l'un de ces inconvénients. Les choses de l'amour, en effet, ne sont jamais profitables. Et il faut se réjouir qu'elles ne nous nuisent pas. Métrodore parvient à un point d'équilibre précaire. Le plaisir n'a aucun intérêt en ce qu'il n'amène aucun profit, mais il se peut qu'on arrive à le neutraliser, ce qui constitue, à vrai dire, la seule véritable joie dans l'amour, qu'il ne fasse pas mal. En même temps, l'absence de douleur est plaisir chez Épicure. Mais qu'en est-il alors à présent si précisément les conditions requises par la sentence sont réunies ? Force est en effet de songer au mariage lorsqu'on lit les premières lignes. On y retrouve l'exigence de la conformité aux lois et aux coutumes, ce qui ressemble terriblement à la conformité à l'institution conjugale. Il ne faut pas affliger un proche. La fidélité dans le mariage n'a-t-elle pas pour corollaire précisément de permettre de n'affliger personne dans la consommation du plaisir ? À moins de penser que la relation avec une courtisane n'offense pas les mœurs, et nous savons qu'une telle relation, dans la Rome de Caton, n'offensait guère Caton, le censeur, ni les lois. De manière, sauf à partir précisément des lois sur le mariage d'Auguste. De manière tacite, donc, nous avons deux possibilités pour Épicure et pour Lucrèce, pardon. Deux possibilités, les seuls lieux possibles d'assouvissement du désir sont les bordels ou le mariage. Alors même qu'Épicure ne conseille le mariage à personne. De fait, il semble même bien l'interdire aux sages épicuriens. C'est dans la sentence Diogenes, pardon, de 10-119. Et le sage ne se mariera pas et n'aura pas d'enfants. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, certains se marieront et élèveront des enfants. Alors, je ne vais pas vous embarquer dans une discussion philologique. Le texte est compliqué, et le grec est compliqué, et surtout, il y a une lacune. Alors, forcément, la leçon classique du texte est passablement contradictoire, puisqu'on lit en général « En outre, le sage se mariera et fera des enfants, mais c'est suivant les circonstances de la vie qu'il se mariera ». Donc c'est un peu contradictoire. Et là, je suis en fait la proposition de Tad Brennan en disant « Le sage ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant ». Parce que sinon, on ne comprendrait pas très bien le lien logique entre l'impératif fait au sage et la mention des circonstances qui fait plus que le nuancer. Si toutefois Épicure conseillait aux sages de se marier, il faudrait convenir que le seul lieu acceptable pour les plaisirs sexuels est alors le mariage, sous peine d'outrage aux bonnes mœurs. Si l'on accepte maintenant qu'Épicure interdit le mariage aux sages, ce qui est actuellement à peu près le cas, dans des circonstances normales, alors il faut penser que le sexe sans amour est réservé aux rencontres occasionnelles. Mais lorsqu'il s'agit de procréer, la situation devient plus complexe. On ne peut guère faire d'enfants à une courtisane, et s'il est clair que l'on peut faire des enfants hors les liens du mariage, je ne sais pas jusqu'à quel point cela n'offenserait pas les bonnes mœurs et ou les lois. Il est un fait que, lorsqu'il montre que la fécondité des unions dépend de la bonne convenance réciproque des partenaires sexuels, c'est en 4248, les harmonies de l'amour sont en effet très diverses, dit-il, Lucrèce se réfère naturellement à l'union conjugale. Je cite. Donc c'est 4251-1257. Beaucoup furent stériles en plusieurs hyménées, mais trouvèrent plus tard l'homme qui leur donna d'enfanter et de s'enrichir d'une douce lignée. Des maris à leur tour, dont les femmes fécondes n'avaient pu concevoir, rencontrèrent enfin la nature assortie, capable d'assurer à leur vieillesse le réconfort d'enfants. L'amour conjugal est, comme il se doit, précaire. L'union conjugale largement ouverte sur la possibilité du divorce et n'a pour seul moteur, non pas bien entendu l'amour, mais bien la nécessité d'avoir une lignée. Finalement, c'est là la surprise, si le but de l'union conjugale est d'avoir des enfants, le mieux est de réduire au maximum un plaisir qui serait forcément trompeur et diluer le couple dans les fantasmes et les délires amoureux. D'où la solution de Lucrèce qui laisse aux courtisanes, Scorta, le plaisir et préserve les épouses, uxores, coniuges, et les épouses et le mariage, des illusions de la voluptas. Je cite, c'est 4263-1277. Et les façons qu'on a de pratiquer la tendre volupté comptent énormément. C'est en effet plutôt à la façon des bêtes, croit-on communément, comme les quadrupèdes, que l'épouse conçoit. La poitrine est posée, les lombes en l'air, si bien que les semences peuvent bien se loger. Pas l'ombre d'un besoin pour l'épouse en ce cas de mouvement lascif. La femme fait obstacle à la conception. Et les prostituées ont leur raison à elles pour remuer ainsi. C'est afin d'éviter de subir le fardeau de grossesse fréquente et faire en même temps que Vénus elle-même s'ajuste mieux encore à la virilité. Nos épouses n'ont donc aucun besoin de ça. Les courtisanes d'ailleurs font peut-être le meilleur calcul. En donnant plus de plaisir et en en prenant elles-mêmes sans doute plus, voire 4192-1197, où est montré de manière assez nouvelle sans doute, et c'est suffisamment rare en philosophie pour être souligné, que la femme elle-même prend du plaisir à faire l'amour. Donc, en prenant du plaisir, elle ne risque pas d'avoir d'enfant. On ne saurait beaucoup plus désolidariser le mariage du plaisir, le mariage de l'amour. Puisque lorsque l'on recherche le plaisir, on évite la fin naturelle de l'autre, le mariage. Et lorsqu'on veut un enfant dans le mariage, on évite le plaisir. Après ce trop rapide itinéraire, il faut se rendre à l'évidence. Dans ces deux philosophies du plaisir, Eros et Gamos ne semblent pas pouvoir être articulés, amour et mariage. Eros et Aphrodisia le sont chez Ovide, et de manière plus problématique peut-être chez Lucrèce, mais en raison même du fait que le plaisir sexuel engendre immanquablement l'illusion de la passion, on peut penser qu'ils doivent être articulés, même si la solution des courtisanes protège, pour ainsi dire, de la spirale passionnelle. Aphrodisia et Gamos, quant à eux, sont peu conciliables. La solution lucrétienne est suffisamment conforme aux bonnes mœurs pour interdire dans les liens du mariage et l'amour et le plaisir, ou bien les minimiser à l'extrême. C'est peut-être pourquoi Cicéron, pour une fois, ne la rejette pas complètement, ou du moins lui donne sa différence dans les diverses théories philosophiques de l'amour. Je cite Cicéron dans les Tusculanes 4,70. Venons-en aux philosophes, dit-il, ces maîtres de vertu, qui disent que l'amour n'offense pas la pudeur, et sur ce point sont en litige avec Épicure, qui, à mon sens, ne ment pas beaucoup. Dire que Épicure ne ment pas beaucoup, c'est presque dire qu'il a raison. Chez Cicéron, c'est quand même un peu étonnant. Toute proportion gardée, évidemment. Pour Cicéron, donc, Épicure ment moins, ou pour une fois, pas beaucoup. L'arpinate, donc Cicéron, préfère l'absence de tout amour plutôt que les extrémités coupables dans lesquelles se jettent bien des débauchés. Car voilà la plus terrible passion de l'âme, l'amour inconsistant, volage, qui amène les injustices, le soupçon, etc. L'amour n'est pas naturel pour Cicéron. Je cite les Tusculanes 4,70. Et en effet, si l'amour était chose naturelle, tous les hommes aimeraient toujours et aimeraient la même chose. Et ils n'en seraient pas détournés, l'un par la honte, l'autre par la réflexion, un autre par la satiété. Et de fait, les remèdes proposés ne sont, par Cicéron ne sont pas loin d'être ceux des épicuriens. Je cite 4,74. « Ainsi, le remède qu'il faut ici employer, c'est de montrer combien l'objet du désir est futile, méprisable et de nulle valeur, combien il est facile de l'atteindre ailleurs ou autrement, ou même de le négliger tout à fait. Il faut aussi parfois détourner son esprit vers d'autres goûts, d'autres inquiétudes, d'autres affaires. Souvent, il faut ordonner un changement d'air, comme on le fait aux malades, qui ne reprennent pas leurs forces. » Cicéron serait-il donc sur cette question crypto-épicurien ? La solution doit être bien sûr nuancée, mais il faut bien avouer qu'on a du mal à comprendre le « uel aliunde, uel aliomodo », c'est-à-dire « ailleurs ou autrement hein, », le « facile d'atteindre ailleurs ou autrement ». Satisfaire le désir sexuel autrement et d'une autre façon, qu'est-ce à dire ? Je peine à penser qu'il pourrait s'agir complètement de la solution classique épicurienne. Jeter sa semence, on l'a vu tout à l'heure, dans la première venue. À moins qu'il ne s'agisse de s'en tenir donc à la fameuse promenade, qui, comme on le sait, a des vertus de continence. La solution emprunte somme toute tout autant au stoïcisme qu'à l'épicurisme. Il s'agit de montrer que ce que l'on prenait à tort pour un bien n'est qu'un notoire indifférent, sans doute pour Cicéron non préférable. Ce que blâme ici, très rapidement pour en parler un peu, ce que blâme surtout ici Cicéron, c'est l'amour soi-disant pédagogique et homosexuel. C'est en cela que les philosophes sont appelés des professeurs de vertu, parce que l'amour est censé élever l'héroménos, ce dont doute Cicéron, regrettant les écrits du maître Platon. Pourquoi ne pas aimer alors, dit-il, un jeune homme laid ou un beau vieillard ? Pourquoi, en somme, jouer avec le feu, ce plaisir des attouchements dans les gymnases que louait Platon dans le Phèdre, que conteste Cicéron précisément avec les mêmes raisons ? En recherchant des plaisirs qui, jouant avec les propos limite-limite, accroissent pour Cicéron l'inquiétude. Il n'est pas bon, dit le paragraphe 70 du livre 4 des Tusculanes, de se retenir et de réprimer son désir, ce qui est pour Platon le gage d'un dépassement de l'érotique vers la vertu. Et Cicéron n'agrée finalement que deux formes d'amour. La forme stoïcienne, même si son nom est malheureux, dit-il, puisque Eros ne saurait être cet amour que cet amour amicitiae, l'amour de l'amitié, qui est un amour sine solicitudine, sine diserio, sine cura, sine suspirio, sans sollicitude, sans désir, sans souci, sans soupir. Et les amours des femmes, non qu'ils lui plaisent véritablement sans doute, mais la nature leur a donné une plus grande licence, dit-il, et une certaine légitimité. Il y a donc place pour la passion pour les femmes. Il s'agit sans doute de lui conférer les cadres. Et ces cadres, nous les trouvons chez Musonius. La grande originalité du maître d'Épictète est sans doute d'admettre Musonius Rufus, le maître d'Épictète. Parce qu'on nous demande, toujours Musonius qui, Musonius quoi, mais qui c'est ce Musonius ? Eh bien, c'est le maître d'Épictète. Voilà, vous le saurez désormais. Musonius Rufus était le maître d'Épictète. Épictète, c'est qui ? Bon, c'est un philosophe, ça, on le connaît tous. Musonius, le maître d'Épictète. La grande originalité donc, du maître d'Épictète est sans doute d'admettre et donner une place aux aphrodisias dans le mariage. Et ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire, par-delà l'austérité de la pensée musonienne, par-delà, il faut voir sa nouveauté, sa profonde originalité. On retient en général de Musonius sa rigoureuse morale sexuelle qui réserve le plaisir au couple marié et dans la mesure du possible où il a pour fin donc la procréation des enfants. Mais on insiste assez peu, finalement, sur le fait que Musonius laisse une place aux aphrodisias. La chose n'est en somme pas taboue chez le stoïcien. Le plaisir sexuel, indifférent dans la doctrine de l'école, en ce qu'il n'est pas à rechercher, et advient naturellement du fait de l'union sexuelle, trouve son expression et sa légitimité dans le mariage. Je cite Musonius. Une partie et non la moindre de la vie de mollesse réside aussi dans les plaisirs sexuels, les aphrodisias. Ceux qui s'adonnent à cette vie ont besoin de toutes sortes de mignons, non seulement permis, mais aussi défendus, non seulement féminins, mais masculins. Ils font la chasse, tantôt à un aimé, tantôt à un autre, et ne se contentent pas de ceux qu'ils ont sous la main, mais poursuivent ceux qui sont rares et recherchent des unions honteuses qui constituent toutes pour l'homme le comble du déshonneur. Bon, ça, c'est sur l'amour pédagogique, Eros, etc. Je règle mes comptes avec Platon, je règle mes comptes avec toute une institution, l'homosexualité grecque, etc. Je suis romain, je le montre. Et ensuite, il continue. Il faut que ceux qui ne vivent pas dans la mollesse ou ne sont pas mauvais tiennent pour seul plaisir sexuel juste ceux qui s'assouvissent dans le mariage et qui ont pour finalité de procréer des enfants parce qu'ils sont conformes à la loi. Ceux qui ne constituent qu'une pure recherche de plaisir sont injustes et illégaux, même s'ils ont lieu dans le mariage. Ce texte, en fait, est d'une grande densité. Je ne vais pas, hélas, dire tout ce qu'il y aurait à dire. Je vais juste insister sur la fin. La relation conjugale, j'insiste encore sur le fait que le mariage est d'abord une relation pour Musonius avant d'être une institution, est un lieu hautement stratégique pour la conversion du plaisir. Et si les aphrodisias lui sont exclusivement réservés, c'est aussi parce que c'est là que ces indifférents prennent tout leur sens et leur valeur de préférable. Vous savez, chez les stoïciens, il y a les indifférents, c'est à peu près tous les biens, et dans ces indifférents, il y a des préférables et des non-préférables. Alors ça dépend des circonstances, ça dépend de plein de choses, mais il est généralement préférable d'être riche, d'être beau, d'être en bonne santé. Vous avez un très beau passage du De Vita Beata de Sénèque, par exemple, qui dit bah oui, le sage préférerait être beau, préférerait être en bonne santé, préférerait être riche, etc. Évidemment. Donc il y a des préférables, mais ces préférables peuvent, selon les circonstances, devenir des non-préférables. Ça reste, du point de vue de la vertu, totalement indifférent. Le plaisir est un indifférent, mais dans le mariage, il acquiert son statut de préférable. Dans le mariage, d'abord, sont liées les deux premières sortes... Dans le mariage d'abord sont liées les deux premières sortes d'amour. Epithumia pour les unions sexuelles voulues par la nature, epithumia pour l'amitié, parce que la composante du désir sexuel, dit Musonius, est double. Je parlais un tout petit peu grec, mais pas très longtemps. Epithumia tes homilias kai tes koinonias. Ce qu'on traduit par désir tout à la fois du commerce sexuel, mais d'une communauté à construire. Communauté, je l'ai dit tout à l'heure, fondée sur la bienveillance réciproque des époux, là, qu'Edémonia. Telle est la double fin assignée au mariage pour Musonius, procréation et communauté de vie bienveillante. Je cite « Dis-moi, à cause de quoi le démiurge de l'homme a-t-il d'abord coupé en deux notre genre, puis lui a-t-il fait deux sortes de parties sexuelles, l'une pour la femme, l'autre pour l'homme, et pourquoi a-t-il mis ensuite dans chacun un violent désir de commerce et de communauté, ce dont je parlais tout à l'heure, avec l'autre, pourquoi a-t-il mêlé aux deux une violente nostalgie l'un de l'autre, de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme ?» Je m'intéressais après donc ce double désir, epithumia à la fois pour la procréation et à la fois dans la même pulsion, dans le même désir, à la fois la procréation et à la fois la communauté des époux. Je vais m'intéresser maintenant à un petit mot qui est dans le texte que je viens de vous citer, qui est le mot « potos ». Hein, il dit donc qu'il y a ce double désir, epithumian, iskuran, et puis un « potos iskuros », un désir très fort. Et le « potos », c'est un désir tout à fait particulier, c'est le désir de l'autre comme absent. L'autre comme absent. Vous avez c'est utilisé par Platon, c'est utilisé par les stoïciens, très clairement, il y a une définition du potos. Le potos, au fond, permet au couple de ne pas vouloir une unité impossible. Et ce qu'il y a d'assez génial, c'est qu'on a une nature humaine qui est scindée dans le texte. D'abord, pour les stoïciens, il n'y aurait pas de nature humaine, ça n'existe pas. Un homme, un concept, n'existe pas dans la nature. On n'a que des individus humains. Et plus compliqué, on n'a que des individus spécifiquement désignés. C'est ce qu'on appelle l'idiapoiotès. Hein, c'est-à-dire, on va avoir que des individus spécifiques. Et dans la nature humaine, il n'y a pas de nature humaine, mais il n'y a que des individus humains, soit hommes, soit femmes. Hein, une humanité scindée en hommes et femmes. C'est quelque chose de très important que les stoïciens reprennent très souvent, enfin dans ces textes-là, sur le mariage. Le pothos donc permet au couple de ne pas vouloir une unité impossible et qui, de manière fantasmatique au moins, produit forcément la disparition de l'un ou de l'autre ou des deux partenaires, mais une union où la place de l'autre est toujours marquée comme place de l'absence. Ce qui s'oppose à la volonté de fusion qui signerait la mort de la relation et qui permet aux deux parties d'avoir une place entière dans cette relation. Là où le désir se laisse en général analyser comme désir de la disparition de l'autre, désir qui tend à la destruction de son objet, le pothos tend au contraire, sur fond d'absence, à placer l'autre comme pôle essentiel de la relation. Il permet d'autre part la substitution d'un autre type de relation au seul désir de procréation, autre type qui dérive du désir d'unité, apparenté au désir sexuel mais amoindri, dans le sens où le désir n'est plus de faire un avec l'autre, comme on emboîte deux parties pour construire le tout, un petit peu comme le mythe dans le banquet, le mythe des androgynes, hein, où on a deux parties qui se constituent dans un être d'ailleurs dont la puissance est énorme. Donc, qui permet donc de ne pas fantasmer l'unité, mais de créer une vie commune. L'union effective est rendue possible par le jeu et les articulations que crée le pothos. Le mariage reprend ces mêmes fondements pour les réaliser dans le couple. Le couple, donc, je l'ai déjà dit, c'est le lieu du dégagement des relations familiales, je l'ai disais en ouverture, lieu où on s'attache à un partenaire choisi, première relation d'élection, pour vivre avec lui quelque chose de cette aventure du désir et, dans cette aventure, créer un couple, créer les conditions d'une vie à deux, d'une intimité. Musonius parle de sumpnoia, respirer ensemble à deux, respirer le même air à deux. Donc, créer les conditions d'une intimité que j'ai cru pouvoir relier à la notion dont use par ailleurs Antipater à propos du mariage, à la notion de crassis. La crassis, ce qui est génial, c'est que c'est un type de mélange dans le stoïcisme, type de mélange où les éléments mélangés gardent chacun leur caractéristique propre. Si vous avez plusieurs mélanges chez les stoïciens, vous avez la parathésis, qui est comme une sorte de mélange de haricots et de divers haricots, etc. Un mélange par contiguïté, en somme. Puis après, vous avez deux mélanges qui sont la crassis et la syncusis. La syncusis, c'est la fusion totale, mais qui donne un nouveau corps. Exemple de syncusis, quand je fais un gâteau, je mélange des ingrédients et ça donne un nouveau corps. Et je ne pourrai jamais distinguer les éléments que j'ai mélangés. L'enfant, d'une certaine manière, est une sorte de syncusis aussi. Une syncusis un peu compliquée. La crassis, c'est un mélange, mais où je pourrai toujours retrouver les éléments qui sont mélangés. Et je pourrai toujours les séparer. Mais c'est un mélange total. C'est la crassis d'Iolon. C'est un petit peu comme si on mélangeait une goutte d'eau à un verre de vin. Pour les stoïciens, si on mélange une goutte d'eau à un verre de vin, la goutte d'eau va prendre l'extension du mélange, va totalement se mélanger, mais, alors je ne sais pas comment ils font, mais ils l'assurent, on peut séparer la goutte d'eau du vin, même une fois mélangée. Donc un mélange total, mais on peut séparer. Mais le couple, c'est ça pour Musonius, c'est un mélange total, à deux, une union, je ne vais pas dire que c'est une unité, alors j'ai dit que ce n'était pas le cas, une union totale, mais qu'on peut toujours séparer. D'accord ? Donc chacun garde sa caractéristique individuelle. Hein, on n'est pas dans le fantasme d'une fusion étonnante. Je reviens à mon propos maintenant. La conformité des plaisirs à la loi dans le mariage se constitue en somme sur un double front. D'une part, parce que les plaisirs conjugaux ont pour but la procréation, ce qui est honorer l'instinct naturel. Et là, je pense qu'il s'agit, en fait, vous avez une distinction très importante également dans le stoïcisme, c'est assez binaire, enfin, plutôt ternaire d'ailleurs, la philosophie stoïcienne, vous avez une distinction qui est très importante entre scopos, le but, et telos, la fin. La fin, c'est toujours la vertu. C'est ce qui est à rechercher. On recherche toujours la vertu. Et vous avez scopos, le but. On va rechercher la vertu en essayant d'atteindre différents scopoi, différents buts. D'accord ? C'est-à-dire pas autrement qu'on va chercher la vertu. Il faut bien, on a toujours des buts, et c'est ça qui est premier, mais on recherche toujours la vertu derrière. Eh bien, je pense que la procréation, c'est un des buts du mariage. Musonius dit qu'il y a deux buts dans le mariage. Tout à fait étonnant. Et il ne parle pas de but d'ailleurs, il parle de kephalaya, chose importante dans le mariage. Il y a donc la procréation, la vie commune. Mais je crois que la procréation, c'est à titre de scopos. C'est-à-dire au fond, dans le stoïcisme, si vous ratez votre but alors que vous avez tout fait pour l'atteindre, tout faire pour l'atteindre, c'est gagner la fin. La fin, c'est effectivement tout faire pour bien atteindre son but. Le but, si on ne l'atteint pas pour une raison X, Y, Z, bien, c'est pas grave, c'est un indifférent. D'accord ? La procréation des enfants, c'est un scopos. La vie commune, c'est le telos. La vie commune, pourquoi ? Parce que c'est l'amitié la plus haute, dit Musonius. L'amitié des époux, précisément, c'est en cela qu'elle est modèle et matrice d'ailleurs, c'est l'amitié la plus haute, hein, la plus valable des amitiés. Bref, c'est l'amitié la plus haute, c'est la fin du mariage. Et telos, donc la communauté. Tout plaisir hors de ces cadres est interdit, mais ce que je voudrais vous faire remarquer, je ne vais pas vous citer le texte parce que je voudrais avancer, je n'en ai plus pour très, très longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est que Musonius lit de manière tout à fait nouvelle Eros, Gamos et Aphrodisia. C'est-à-dire que pour la première fois peut-être dans l'histoire des textes, nous avons les trois enfin assemblés. C'est dans le mariage qu'on a l'amour, les plaisirs sexuels et le mariage, bien sûr. Je me contenterai de quelques remarques conclusives sur Plutarque, très rapidement. Il constitue un sommet de la réflexion que j'ai voulu mener ici, puisque les plaisirs sexuels sont pleinement assumés dans le mariage, mais plus encore, dit-il, ils sont le ciment du mariage. Et le lit, pour Plutarque, devient un lieu stratégique de réinvestissement des relations dans le couple. En somme, là où Musonius maintenait encore le cadre légal, dans le cadre légal, l'impératif à titre de but de la procréation, hein, et qui constitue d'ailleurs ce cadre, Plutarque ne retient plus que la fin du mariage, la relation de bienveillance à laquelle les plaisirs sexuels contribuent dans une large part. Je cite juste Plutarque. Je cite pas celui-là. non, parce que ça m'amènerait ailleurs. En somme, le mariage pour Plutarque, le mariage sans amour n'est que ruine de l'âme, pour dire ça de manière... parce que ruine d'une relation toujours exceptionnelle, dit-il. Dans le mariage, il s'agit bien d'abord d'aimer et d'être aimé, et non pas de rechercher à perpétuer l'espèce. Le plaisir sexuel est ainsi, et surtout, le plaisir de l'autre et le plaisir pris à la relation. Et je vais finir sur cette citation. Pour les femmes mariées, Eros, jointe à Aphrodite, et principes d'amitié, comme prendre part ensemble à de puissants mystères. Malgré la petitesse du plaisir, c'est tout de même à partir de lui que reverdissent jour après jour le respect, la bienveillance, l'affection, la confiance mutuelle. On ne blâme pas les Delphiniens de déraison parce qu'ils appellent Aphrodite attelage, ni Homère lorsqu'ils nomment amitié une telle union. Enfin, on invoque Solon, législateur de grande expérience en matière de mariage, lorsqu'il commanda aux époux de faire l'amour pas moins de 3 fois par mois, et sans doute pas à cause du plaisir, mais de même que les cités de temps en temps renouvellent leurs alliances réciproques, de même ainsi voulait-il que le mariage fût renouvelé, sauvé des griefs accumulés en toute occasion dans de telles affections. En fait, il faut faire l'amour, comme ça, en plus, on sera boboche. Voilà, la jonction Eros-Aphrodite amène donc à une sorte d'épure du plaisir qui tend à se dépasser lui-même par lui-même. Petit donc par sa durée, sans doute, dit-il, peut-être par sa valeur intrinsèque, il n'en reste pas moins qu'il est garant de l'union conjugale et devient l'occasion pour les époux de renouer l'un avec l'autre. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici, dire simplement juste ça. Plaisir. Plutarque ne se fait enfin aucune illusion dans une sorte de réalisme prosaïque, dénué de cynisme, mais non de poésie. La fidélité aussi se construit, se gagne dans le temps. Comme l'habitude crée la bienveillance, c'est aussi dans le temps que l'amour amène à intérioriser, ou plutôt à exprimer soi-même la norme que dessinent les lois, une norme qui ne peut être qu'extérieure et subie. Je cite Plutarque, En outre, la fidélité mutuelle, qui est plus que tout nécessaire dans le mariage, cette fidélité en tant qu'elle dépend moins de la volonté qu'elle n'est imposée de l'extérieur par des lois, la honte ou la crainte, et qu'elle est, il cite, l'œuvre de plus d'un frein, de plus d'un gouvernail, est toujours sans doute au pouvoir des époux. Mais l'amour de lui-même apporte tant de maîtrise de soi, de retenue et de loyauté que même si c'est une âme déréglée qui l'atteint, il la détourne de ses autres amoureux, détruit son orgueil, brise son insolence et son effronterie, introduit en elle la pudeur, le silence, le calme, l'entoure d'un abord réservé et la rend attentive à un seul être. Plus qu'il ne l'intériorise, l'amour et l'érotisme amoureux justifient la norme. Dans un mouvement très platonicien, l'amour bien compris pour qui se laisse faire par Eros devient révérence et respect mêlé de crainte pour l'être aimé. Les cadres du mariage qui exigent la fidélité ne sont donc plus une censure extérieure comme le dénonçait Ovide, mais constitués de manière immanente par la seule puissance d'Eros. C'était bien là une des intuitions du poète Ovide. C'est là ce que confirme la philosophie. Merci de votre patience.
Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité. Et nous recevrons le 18 novembre David Lapoujade qui vient de publier un livre sur Deleuze qui s'appelle « Les lignes aberrantes ». Chez Deleuze, donc aux éditions de Minuit. Et bon, il est question, pour que ça soit un peu clair, de l'intérêt de Deleuze pour toutes ces lignes qui fractionnent les vies, fêlures par exemple, lignes d'air, ou plutôt d'errance, de ces chevaliers qui finissent par ne jamais atteindre la terre promise, etc. Donc comment la vie est constituée de ces lignes qui fracturent plutôt que de parcours qui sont a priori donnés d'avance. Voilà. Merci bien et donc au 18 novembre.
Merci beaucoup.